Et j'appelle à présent, il est gentil, il a été, oh, ça va tenir, David Bouvarel, pour la dernière intervention. Donc sur la mémoire épisodique et maladie d'Alzheimer, vous êtes doctorant au sein de l'INCIA et vous allez nous évoquer cette piste de remédiation quotidienne à domicile. C'est essentiel parce qu'il y a beaucoup de gens à domicile.
Bonsoir. Donc effectivement, je suis David Bouvarel et je suis doctorant en neuropsychologie. Donc je fais mes études à Grenoble, mais je travaille aussi avec l'INCIA et je vous en parlerai un peu plus en détail de toute façon au cours de la présentation. Alors je voulais commencer par vous dire que la mémoire, on y fait souvent référence quand on parle de nos souvenirs. Bon, par exemple, moi je me souviens avoir écrit cette présentation et puis je me souviens aussi l'avoir apprise pour la présenter devant vous. Sauf que petit détail, en fait, les souvenirs n'existent pas. Alors là, vous êtes un peu dubitatif.
Oui, ben oui.
En fait, on n'a pas dans notre tête une caisse à l'intérieur de laquelle il y a des tiroirs et on ne va pas tirer les tiroirs et faire jaillir des souvenirs comme ça, stockés tels quels. En fait, ce qui se passe en réalité, c'est que nos souvenirs, on va les reconstruire bout à bout, petit à petit, on met des fragments les uns derrière les autres et puis à un moment, ça se refaçonne, ça se reconstruit et ça veut dire quelque chose qui a du sens, qui est cohérent. Alors, si vous devez retenir quelque chose de cette présentation, c'est que les souvenirs stockés dans notre tête, tels qu'ils ont été vécus, ça n'existe pas vraiment. En fait, la mémoire et ce souvenir, c'est reconstruire. Alors, j'ai pris conscience de ça il y a quelques temps, parce que quand j'étais plus petit, j'allais chez ma grand-mère, et ma grand-mère, elle cuisinait un plat, c'était du poisson avec une sauce à la crème, et il y avait peut-être de la ciboulette à l'intérieur, j'ai jamais vraiment su ce qu'il y avait dedans. Et en fait, c'était un plat vraiment très très bon, et c'était un plat très très bon aussi, parce que c'était le plat de ma mamie. Et moi, une fois que j'étais adulte, je me suis dit bah, il faut absolument que j'arrive à reproduire cette recette qui m'a procuré tellement de plaisir. Alors j'ai essayé beaucoup, beaucoup. J'ai toujours échoué, beaucoup, beaucoup. Puis un jour, par miracle, j'ai porté une sauce à la ciboulette à ma bouche. Et là, je me suis retrouvé 10 ans en arrière. Et ça, c'est moi, il y a 10 ans.
Très mignon.
Merci. Alors au départ, je me suis simplement retrouvé là, sur la table, enfin assis sur une chaise face à la table, avec le plat sous les yeux. Et puis progressivement, j'ai commencé à revoir le buffet. Il y avait un énorme buffet comme ça sur la droite. Et puis à l'intérieur de ce buffet, il y avait un tiroir. Et puis tiens, ça me fait penser qu'à l'intérieur de ce tiroir, il y avait une montre à gousset. Mais tiens, ça me fait penser que cette montre à gousset, mon grand-père avait promis de me la donner. En fait, tiens, ça me fait penser qu'il avait aussi promis ça à mon cousin. Mais tiens, d'ailleurs, ça me fait penser à mon cousin avec qui je jouais dans le jardin, dans la chambre. Ça me fait penser à la chambre. Il y avait un énorme placard dans la chambre. Ça me fait penser qu'à l'intérieur de la chambre, à l'intérieur du placard, il y avait une télé. Et bon, on va s'arrêter là, on n'est pas là pour raconter ma vie. En fait, ce qui vient de se passer, c'est les bouts de mes souvenirs qui petit à petit se sont mis les uns derrière les autres. Et mon souvenir s'est reconstruit. Ce à quoi vous venez d'assister, c'est la reconstruction de mon souvenir. Alors ça marche aussi pour vous. Hein. Par exemple, ce matin, quand vous avez caressé votre chat, votre chien, ou quand vous avez planifié votre itinéraire pour venir jusqu'ici, au départ, vous aviez juste une carte routière et puis en fait, vous êtes capable de réfléchir à tout l'environnement autour. Une particularité du fonctionnement du cerveau et du système cognitif, c'est qu'il est calibré pour faire des liens. En permanence, on fait des associations, et c'est d'ailleurs pour ça que moi, je pense au poisson avec la sauce à la ciboulette, et qu'après, en fait, je pense au buffet, au tiroir, à la montre à gousset, à mon cousin, etc., etc. L'autre particularité, évidemment, c'est que quand on interagit avec le monde, eh bien, le monde nous envoie plein de stimulations sensorielles. Parce qu'en fait, on entend, on voit, on sent, on ressent, et puis aussi on touche, on goûte. Il se passe plein de choses quand on interagit avec le monde. Le monde, fondamentalement, il est multisensoriel. Et nous, en psycho, parce qu'on aime bien être un peu pompeux, on appelle ça autrement, donc on appelle ça la multimodalité. Ça veut dire la même chose. Alors, comme notre cerveau passe son temps à faire des liens et à faire des associations, il fait des associations avec tous les sens qui sont mobilisés pendant notre interaction avec le monde. Et donc, au sein d'un seul et même épisode de vie, on va associer tous les sens qui auront été mobilisés lors de la première expérience. Alors là, au stade où on en est, vous avez normalement appris déjà 2 choses. 1, les souvenirs se reconstruisent. Et 2, les souvenirs sont multimodaux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire maintenant tout ça ? En science, et donc aussi en psycho et en neuropsycho, quand on cherche à comprendre comment fonctionnent les choses, on utilise ce qu'on appelle des modèles. Alors, les modèles, c'est un peu comme des croquis, c'est des schémas qui décrivent comment les choses se passent à l'intérieur du cerveau et même à l'intérieur du corps de façon générale. Moi, dans ma thèse, j'utilise un modèle génial qui s'appelle le modèle ACT-IN, et il a 2 composantes, ACT pour activation et IN pour integration, et vous me passez mon niveau d'anglais. Voilà, bah merci d'être venu. Alors vous voulez peut-être un petit peu de détails, ça tombe bien, j'en ai. Dans ACT, pour Activation, c'est le processus qui décrit comment ça se passe quand on va pour la première fois fabriquer notre souvenir. Parce que depuis le début, je vous explique comment ça se passe quand on se souvient, et je vous explique que c'est refabriquer au présent notre souvenir. Mais si on refabrique, il y a bien un moment où on l'a fabriqué pour la première fois, donc comment ça se passe pour le souvenir originel. En fait, c'est très simple. Vous allez voir, tout est super simple. Quand on interagit avec le monde qui est donc multimodal, ce qui va se passer, c'est que nos neurones vont communiquer entre eux. Nos neurones traitent l'information du monde. Pour traiter cette information et pour se la faire passer l'un et l'autre, en fait, ils utilisent des petites billes, ça s'appelle des neurotransmetteurs dans le langage scientifique, et pour se faire passer ces petites billes, ils vont piocher à l'intérieur de différents sacs, et selon ce qu'ils vont piocher à l'intérieur des sacs, ça veut dire différentes choses. Et donc, la quantité et la qualité des neurotransmetteurs définit l'information qui passe. La petite complexité, évidemment, c'est qu'on n'a pas, juste deux neurones qui parlent entre eux dans notre cerveau. En fait, on en a des milliards.
C'est banquille.
Non, je vous assure, tout le monde a des milliards de neurones. Même ceux qui croient qu'on n'utilise que 10% de notre cerveau. On a donc des milliards et des milliards de neurones qui communiquent en permanence entre eux. Et donc, ça fait quelque chose d'un peu confus. Mais à un moment donné, on est capable d'enregistrer ce qui se passe dans le cerveau. Et si on enregistre ça, on est capable de mesurer des états d'activation. L'état d'activation, c'est l'état dans lequel est notre cerveau à un moment donné, quand il est en train de traiter le monde. Parce que nos neurones, en fait, ils sont dans des structures cérébrales. Et du coup, si par exemple, vous avez vu là, plein d'images de scanners et ce genre de choses, en fait, on est capable de mesurer les zones qui sont actives et les zones qui sont un peu moins actives. En fait, toutes les zones sont tout le temps actives, mais il y en a qui ressortent par rapport à d'autres. Et à un moment donné, notre cerveau, il est donc dans un état particulier. Quand il traite une information, il a un état d'activation qui comprend en fait toutes les activations sensorielles que l'on a perçues au moment où on a interagi avec le monde. Et ces activations sensorielles, qui sont mises donc toutes ensemble, elles veulent dire quelque chose. Et cet état d'activation précis, à un moment donné, il signifie cette information-là qui est le poisson avec la sauce à la ciboulette. Alors ce qui se passe, c'est qu'on va enregistrer cette configuration, ça va laisser une trace dans le cerveau, et puis du coup, à un moment donné, dans le présent, qui est en fait le futur du moment où notre souvenir se fabrique, ça va vous arriver à suivre, on va rencontrer à nouveau ce poisson sauce ciboulette, et puis là, il va se passer une projection 10 ans en arrière. En fait, ce qui va se passer, c'est que c'est les mêmes réseaux de neurones, et donc c'est le même état d'activation qui va réémerger. C'est les mêmes structures qui vont traiter les mêmes informations. Notre cerveau, comme il passe son temps à faire des associations, il avait déjà associé par le passé cet état-là, c'est le poisson sauce ciboulette. Bah, du coup, au présent, le même état, c'est la même information. Et donc, en fait, notre mémoire, son boulot, c'est de comprendre ce que c'est toutes ces activations et ensuite de comprendre ce que c'est toutes ces réactivations. Se souvenir, c'est activer et réactiver. C'est reconstruire au présent à partir de notre passé. Après, il y a le deuxième processus, c'est IN pour Integration. Lui, il est encore plus simple. C'est le processus qui va lier ensemble la configuration neuronale, l'état d'activation, avec tous les sens qui ont été mobilisés et tout ce que ça veut dire. Voilà, je suis allé trop vite. Alors, vous avez vu un petit exemple après. Le processus d'intégration, c'est celui qui permet de faire sens. En fait, c'est celui qui va associer toutes les informations et toutes les activations simultanées à une information particulière. Et c'est grâce à ce processus qu'on a aussi, nous, des souvenirs qui veulent dire quelque chose et qui nous replongent dans notre passé au moment où on mange quelque chose, où on sent quelque chose. C'est l'histoire, par exemple, de la Madeleine de Proust, pour ceux qui ont la référence. Ça, c'est une carte de la France. Et ça, c'est la carte de la France de mon souvenir. Mon souvenir, poisson sauce ciboulette. Alors, au départ, je n'ai jamais mangé de poisson sauce ciboulette. Donc, du coup, bah, je n'ai pas de carte de la France. Et un jour, je vais manger ce plat succulent. Et donc, je vais sentir des choses sur ma langue, et puis je vais sentir des odeurs aussi, et puis je vais entendre, voir des choses, entendre l'environnement, et puis tout ça, ça va me faire plaisir. Ça va me faire plaisir parce que je suis dans un cadre sécurisé et bienveillant, et en plus parce que c'était plutôt bon. Ce qui va se passer, c'est au départ, juste des activations comme ça, simultanées, et elles ne sont pas encore associées, mais vient le processus d'intégration. Alors, petit détail, en fait, l'activation et l'intégration, c'est en simultané, en permanence et en continu. C'est pas d'abord l'un et puis après l'autre, c'est tout en même temps, parce que pourquoi pas. Et le processus d'intégration, en fait, il va faire le lien entre toutes ces villes qui sont là sur la carte de mon souvenir, la ville des émotions, la ville de la saveur, et puis en fait, il va associer toutes les villes entre elles, et puis toutes les autres villes entre elles, et puis toutes les autres villes entre elles. Le processus d'intégration, c'est celui qui permet d'associer tout ce qui a été vécu au moment où ça a été vécu. Ce processus d'intégration, il est génial, et il est permis par une structure tout aussi géniale dans le cerveau, c'est l'hippocampe. Alors ça, c'est la version animée des images que vous avez vues tout au long de la journée. C'est quand même super joli, hein. Et donc, c'est une structure qui est vraiment très très profonde à l'intérieur du cerveau. Ah oui, c'est à l'intérieur, c'est vraiment à l'intérieur. Complètement à l'intérieur. Et c'est cette structure qui va en fait couler le goudron entre toutes les villes de nos sens. Et c'est grâce à cette structure qui a précédemment coulé le goudron qu'on peut ensuite, au présent, réemprunter les chemins de notre passé. Alors, dans la plupart des cas, de façon générale, quand tout fonctionne bien, plus on emprunte une route, plus elle est entretenue, plus elle est praticable, et plus notre souvenir il est clair. Ça, c'est le fonctionnement classique. Plus on s'entraîne, mieux on y arrive. Bah, pour le cerveau et pour la mémoire, ça fonctionne pareil. Plus on sollicite nos souvenirs, plus ils sont clairs. Alors le revers de la médaille, c'est que moins on les sollicite, moins ils sont clairs. Et c'est d'ailleurs pour ça que les exercices de répétition, ça marche plutôt bien. En général, si on répète 3-4 fois une information, on la retient de façon durable. Alors, un petit détail qui vous aura sans doute sauté aux yeux, sauté à la tête, c'est qu'au cours du vieillissement, la mémoire, elle décline un petit peu. C'est pas forcément très grave, c'est quelque chose qui est habituel, naturel. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que les routes de nos souvenirs, elles sont un petit peu dégradées parce que le cerveau, il est un peu vieux, il y met un peu moins les moyens. Et c'est pas très grave, c'est normal, c'est ce qui amène à avoir un petit peu des fuites de mémoire. On en a tous, même quand on n'est pas forcément très âgé. Là où ça devient un peu problématique, c'est quand on a une pathologie type maladie d'Alzheimer, où là, non seulement notre cerveau, il y met un peu moins les moyens, et puis en plus, il va venir carrément dégrader la route. Qui vient avec son marteau-piqueur et puis il coupe toutes les lésions, tous les liens qui existent entre les villes de nos sens. Et ça, c'est quand même quelque chose de grave. Parce que bon, ça, c'est toujours la carte d'un souvenir. Alors maintenant, c'est plus mon souvenir, c'est un souvenir. Et au départ, dans ce souvenir, qui est plutôt intégré, il y a plein d'informations à l'intérieur. Sauf que si on coupe les routes, alors progressivement, on perd en informations. Et petit à petit, c'est un souvenir qui se désintègre, qui perd en sens. Et à la fin, quand il n'y a plus sens, et ben le souvenir disparaît. Alors, petite parenthèse, le souvenir, il ne disparaît pas vraiment, il est toujours là, quelque part. Même si le souvenir n'existe pas, en fait, les activations de notre passé, elles sont toujours là. C'est juste qu'on n'arrive plus à y accéder aussi facilement. Donc le souvenir, il est là, il est juste inaccessible. C'est pour ça, d'ailleurs, peut-être si dans votre entourage, vous avez des personnes qui ont des troubles cognitifs ou des types maladies d'Alzheimer, par exemple, il y a des fois ce qu'on appelle des affabulations. Donc en fait, ils vont raconter des choses qui leur paraissent complètement vraisemblables de leur propre vie. Mais en fait, vous savez que c'est faux, c'est jamais arrivé. Et en fait, c'est parce qu'ils ont des bouts de souvenirs qui ressurgissent. Et donc, c'est vraiment quelque chose de réel. Mais par exemple, c'est une personne qui va vous raconter que la police est venue la voir là cet après-midi, juste parce que tous les après-midi, elle regarde les experts. Et en fait, ça lui est pas arrivé, la police n'est pas venue, mais sauf qu'elle fait un peu des confusions parce que les routes sont pas très praticables dans sa tête. Alors, c'est quelque chose qui est quand même très problématique. Parce que pour sortir la poubelle, j'ai besoin de me rappeler que je ne l'ai pas encore sortie. Pour faire à manger, j'ai besoin de me rappeler que je n'ai pas encore mangé. Et pour prendre mes médicaments, j'ai besoin de me rappeler que je ne les ai pas encore pris. Ça marche à l'inverse. Si je me rappelle que j'ai pris mes médicaments, alors je ne les reprends pas une deuxième fois. Alors, voici ma solution. Ça, c'est la carte de la France, toujours.
Quel teasing !
Merci. Ça, c'est un souvenir classique, un souvenir qui peut être amené à être dégradé avec le temps ou à cause de mon cerveau qui vient marteau-piquer mes routes. Et moi, ma solution, en fait, elle est toute simple. Je vais rajouter des routes. Voilà. C'est aussi simple que ça. Alors, comment on fait pour rajouter des routes ? Comment on fait pour rajouter des routes ? Et bien, c'est très simple. Au moment où on va présenter une information aux personnes, au moment où on va leur rappeler des choses, où on va solliciter leurs souvenirs, on va faire en sorte de solliciter plein de sens différents. Et donc, on va créer comme ça plein de portes d'entrée qui font que si jamais il y en a une à un moment qui est plus fermée que l'autre, et ben il y a toujours une deuxième et une troisième et même une quatrième. Et ça marche beaucoup avec les émotions. On sait que les émotions, c'est un bon support pour les personnes qui ont des troubles de la mémoire. Ça marche aussi beaucoup avec la motricité. Parce qu'en fait, la mémoire procédurale, c'est-à-dire la mémoire des habitudes, les automatismes, ça, malgré la perte de mémoire, Et malgré les troubles mnésiques, de façon générale, c'est une mémoire qui est plutôt sauvegardée. Et du coup, on peut s'appuyer sur l'apprentissage du corps plus que l'apprentissage du cerveau, finalement. Pour faire tout ça, je suis en collaboration avec Linkia, qui est donc une entreprise basée à Lyon, et qui fabrique une tablette qui s'appelle Lily. C'est une tablette qui est super mignonne et qui a au moins deux fonctions, mais en fait, il y en a plein d'autres. Une fonction de communication qui nous permet de maintenir le lien avec nos proches, parce qu'il y a souvent des cas aussi d'isolement ou de rupture du lien social, parce que ce n'est pas toujours facile d'interagir avec des personnes qui ont des troubles mnésiques. Et là, avec la tablette, en fait, on peut passer des appels, envoyer des photos, et puis on peut aussi écouter la radio et ce genre de choses. Et la deuxième fonction principale, c'est une fonction de rappel. Donc là, c'est vraiment pour objectif de venir soulager la charge mentale des aidants au quotidien, puisqu'en fait, au lieu de dire ben, papa, maman ou n'importe qui dans notre entourage qui a besoin de nous, plutôt que de dire ben, là, tu as rendez-vous chez le médecin, là, oublie pas de prendre tes médicaments, là, oublie pas de manger, oublie pas de sortir les poubelles, oublie pas de te coucher, oublie pas de te lever, et bien là, c'est la tablette qui va le faire. Et du coup, ça permet d'avoir une interaction à nouveau plus saine. Quand on va interagir avec notre proche, plutôt que d'être un peu le bourreau qui vient rappeler des tâches, et bien là, on va juste pouvoir s'intéresser à notre proche, lui demander comment il va, ce qu'il a fait de sa journée. Et donc là, on retrouve du lien social un peu plus sain. C'est une tablette qui existe déjà. Et donc moi, ma thèse, elle est complètement appliquée. D'abord, je fabrique des connaissances, puis après, on les applique à la tablette. Comme c'est une tablette qui existe déjà, le but, c'est simplement de l'améliorer. Elle est déjà super, et donc elle sera encore plus super. Alors, je vous mets juste deux petites vidéos.
Juste pour conclure.
Bah, voilà, c'est la fin. Alors ça, c'est une fonction de rappel. Donc en gros, comment ça se passe? On a une application sur téléphone. On programme un peu les rendez-vous auxquels notre proche doit se rendre, ou les rendez-vous chez le médecin, ou si quelqu'un va venir lui rendre visite, par exemple. Et donc ça, c'est vraiment l'aidant qui remplit ça. Et puis après, ça va envoyer une notification sur la tablette. Donc là, par exemple, la tablette, elle l'appelle. Regardez, elle est super mignonne. Jean, est-ce que vous êtes là? Et bien là, du coup, Jean, il s'approche de la tablette, il va interagir, et la tablette, elle va lui rappeler ce qu'il faut. Et puis, du coup, il y a aussi donc, la fonction de communication. Donc, la fonction de communication, c'est ça envoie des photos, des messages, et on peut aussi passer des appels visio. Voilà, je voulais aussi, pour finir, juste préciser que Linkia travaille en collaboration forte avec le terrain. En fait, on travaille avec des associations, avec des patients, avec leurs familles, leurs proches. Puis on travaille aussi avec les hôpitaux, avec des EHPAD. Et puis on travaille aussi avec le milieu de la recherche, puisque moi-même, je suis issu de la recherche. Et donc, je voulais juste spécifier que tous et toutes, ensemble, on va collaborer pour se battre pour l'avenir. C'est l'objectif aussi de la Fondation Recherche Alzheimer. Donc tous ensemble, on se bat pour le bien vieillir et je voudrais juste que vous reteniez ça.
Merci infiniment. Merci beaucoup. Bravo pour la présentation. Elle était vraiment impressionnante de clarté. Bravo, vraiment bravo. Et bravo pour ce magnifique travail.
Merci.